Bien chers frères et bien chères sœurs dans le Christ, que l'amour, la joie et la paix du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit Saint, feu d'amour, soient avec vous maintenant et toujours. Et si vous le voulez bien, pour en guise de conclusion à ce temps d'adoration que nous venons d'avoir avant l'enregistrement, recueillons-nous pour faire cette prière sur l'Église. Seigneur, ne relâche pas ton amour. Purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours. Tu t'es livré à la mort pour ton Église, sanctifie-la par ta parole et purifie-la dans la pénitence. Donne à ceux qui te cherchent de toujours t'y trouver, et à ceux qui t'ont trouvé de t'y chercher encore davantage. Par Jésus ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Alors, mes chers amis, bienvenue à l'enregistrement de cette deuxième interpellation, et si vous consultez le programme, qui va se dérouler cette fois sous le slogan « Chrétiens et chrétiennes, dormons-nous, sonnons les matines ». Et je pense qu'il serait approprié à ce moment-ci alors de rappeler ce texte de saint Paul aux Romains 13, 11, où il dit ceci, et qui est encore de pleine actualité, « D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. » Fin du texte. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alors, mes chers amis, juste un petit commentaire avant de procéder, et ça sera en définitive un deuxième avis. Je me permets d'insister à nouveau pour que poursuive cette écoute uniquement ceux et celles qui se sentent présentement aptes et disposés à accueillir et à absorber et digérer le vin nouveau et pur que le Seigneur nous offre, à ce moment-ci tout à fait privilégié de l'histoire du peuple de Dieu rassemblé en son Église. J'insiste, ne prenez pas de chance si vous ne vous sentez pas aptes ou disposés. Car si votre outre est le moindrement vieille, incapable de souplesse et d'élasticité nouvelle spirituelle, des brûlements d'outre, des craquements ou des éclatements d'outre, je vous le dis, sont des expériences archi-douloureuses. Nous allons, si vous le voulez bien, nous remettre à la besogne, et quand nous nous sommes quittés, nous étions à la deuxième partie de l'enseignement où nous parlions des co-responsables du déclin actuel en Église. Et j'avais partagé avec vous qu'à mon avis, les quatre groupes qui composent l'Église, à savoir les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs et les évêques, sont en fait co-responsables de notre déclin. Et j'avais commencé à souligner, pour deux groupes déjà, les prêtres et les communautés religieuses, deux lacunes que je tenais à mettre en tête de liste, réservant pour les interpellations aux groupes particuliers d'autres commentaires et explications. Nous en sommes aujourd'hui au troisième groupe. Maintenant, chers frères et sœurs laïcs, à vous l'honneur. Ici encore, et croyez-moi, ce n'est ni tactique ni flatterie, mais je veux d'abord rendre hommage à cette multitude de laïcs, hommes et femmes, qui depuis Vatican II en particulier, malgré notre déclin continu en tant qu'Église-institution, ont su répondre quand même aux appels intérieurs du Seigneur et à même des itinéraires les plus variés, spirituellement parlant, ont demandé avec ferveur et obtenu de toute évidence la grâce d'un renouvellement spirituel profond. Ces laïcs ont vraiment cru que la parole de Dieu est vérité et que sa loi est délivrance. Il leur a donc donné un cœur nouveau et il a mis en eux vraiment un esprit nouveau. Et pour peu qu'on se déplace en notre Église du Québec, du Canada ou d'ailleurs, à travers le monde, on constate avec joie et gratitude envers le Seigneur que ces laïcs sont nombreux, sont fervents. Mais on constate aussi, avouons-le, qu'ils sont également affamés et assoiffés d'authentique leadership spirituel chrétien et impatients, inquiets même, face à ce qui se passe, ou plutôt à ce qui ne se passe pas en Église. Ceci dit, mes frères et sœurs dans le Christ, je vous ouvre mon cœur sur les deux principales lacunes qui, à mon humble avis, n'ont pas permis et ne permettent pas encore aux laïcs de bien jouer toute leur partition au sein de notre orchestre ecclésial. La première lacune. Comme vous le savez déjà, vous avez, de par la volonté de Dieu et un mandat d'Église, une responsabilité particulière face à la poursuite de l'œuvre de création selon le plan de Dieu, et, par voie de conséquence, d'incarnation constante du spirituel dans le temporel. Cette grande mission réservée aux laïcs n'est ni négociable ni facultative. Elle vous incombe en tout premier lieu. Et à ce sujet, entre parenthèses, c'est pratiquement toute l'exhortation apostolique récente et remarquable de Jean-Paul II sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde, intitulée « Les fidèles laïcs » qu'il faudrait citer ici. C'est également, vous connaissez sans doute, deux autres documents exceptionnels, le décret conciliaire sur l'apostolat des laïcs, qui date de 1965, à la fin du Concile, et cette encyclique de Paul VI sur l'évangélisation dans le monde moderne. Et d'ailleurs, dans des cassettes et des enseignements éventuels, je reviendrai sur l'importance de ce rôle du laïcat. Jadis, chez nous, comme ailleurs dans les pays chrétiens, il y avait toute une pléiade de groupements et de mouvements dits confessionnels et professionnels, regroupant les gens selon leur profession ou centre d'intérêt et d'activité. On avait le groupement des instituteurs catholiques, des infirmiers et infirmières catholiques, des patrons chrétiens, des médecins, cultivateurs, syndicats ouvriers chrétiens, etc. Ces organismes vous permettaient alors d'être plus souvent alerté et ravitaillé face à vos obligations de chrétiens et de chrétiennes à l'œuvre dans vos vies de travail et d'apostolat. Depuis que, sous le vent de la mode, notre courte vue pastorale a laissé se scléroser ou se nécroser ces types de concertations, qu'avec un peu d'imagination et surtout d'inspiration qu'a été auprès du Seigneur, on aurait pu et dû réanimer ou remplacer avec avantage par d'autres initiatives mieux adaptées, vous vous êtes trouvé orphelin et par surcroît joliment démuni. De là à capituler chacun de votre côté, il n'y avait qu'un pas et vous l'avez franchi. Aujourd'hui, chez nous comme ailleurs, on ne voit pratiquement plus ou très peu de laïcs se compromettre publiquement en tant que chrétiens au cœur des défis qui s'imposent à leur milieu de vie professionnelle, politique, économique, sociale ou médiatique. Il y en a, certes, mais relativement peu ou trop peu. Et attention, ne croyez pas, pour apaiser votre conscience, que les multiples interventions d'évêques ou de prêtres dans tous ces domaines, actions et déclarations d'ailleurs souvent fort discutées ou disputées, comme vous le savez, que ceux-ci viennent prendre la relève et suppléer pour vous. Car jamais, je vous le dis bien simplement, les interventions des évêques ou des prêtres dans tous ces domaines du temporel, même si leurs textes ou leurs gestes sont bien étoffés et calculés, jamais tout cela n'a et n'aura l'impact du témoignage chrétien de vous, chers laïcs, individuellement ou collectivement. Alors que tirant profit de votre prestige et de votre compétence professionnelle reconnue en tous ces domaines, vous passez ou vous passeriez à la défense et à la promotion en notre monde concret d'aujourd'hui des éléments majeurs de la bonne nouvelle de Jésus. Votre abstention et silence, même explicable à certains égards comme je viens de le faire, n'aide pas l'Église, croyez-moi. La deuxième lacune, elle est plus subtile à évoquer, mais je m'y risque quand même. À mon humble avis, autant vous avez eu raison de recourir à cette abondance de mouvements dits de renouveau spirituel depuis Vatican II, autant je loge fraternellement contre vous le grief de vous y être peut-être trop enfermé, ou encore de vous y être laissé emprisonner par d'autres, ce qui revient au même en définitive. Je suis en effet toujours effaré par le nombre de laïcs véritablement, et je le mets entre guillemets, pris en otage par certains de ces mouvements pourtant dits de renouveau ou par leurs dirigeants. C'est une erreur qui a été commise pourtant tant de fois au cours des siècles en histoire de l'Église, avec dommages et intérêts. Je vous confesse que beaucoup s'y trouvent bien, comme en serre chaude spirituelle, et ne voient vraiment pas où ils pourraient retrouver l'équivalent s'ils quittaient. Je vous confesse également que, par bien des pasteurs et bergers en Église, ces mouvements, même officiellement reconnus, sont davantage tolérés qu'endossés, plus souvent l'objet de mise en garde que de mise en valeur. Malgré tout cela, vous, laïcs, renouvelés de cœur et d'esprit, vous devriez davantage vous réengager en Église paroissiale et diocésaine, proclamant, réclamant, acclamant son nouveau renouveau spirituel continu, même si pour le moment, bien des choses laissent encore à désirer. La transition, je l'admets, ne sera pas facile, mais l'heure a sonné. Vous avez, sans y penser et le vouloir, bien entendu, laisser l'Église décliner peu à peu. Et ses évêques et son clergé et ses communautés religieuses s'amoindrir lentement mais sûrement. Et cela, soit en vous taisant sans exiger votre dû spirituel, soit en vous en allant dans ces serres chaudes, les uns bien au loin comme on le sait, et les autres à l'écart. Mes frères et sœurs laïcs, je vous en prie au nom du Seigneur, pour le bien de son Église, osez revenir. La grande Église a besoin d'apôtres et de disciples comme vous. Et sachons-le, si on a peur de courir le beau risque d'être soi-même en marche en une Église qui va se renouveler, comment osera-t-on avoir le courage d'être un chrétien en marche dans le monde d'aujourd'hui? Mon ineffable ami Cristallin précise concernant le rôle des laïcs dans l'Église, et il le fait en boutade, vous le comprenez comme moi, sous forme d'une caricature. Il dit que, jadis avant Vatican II, le laïc était utilisé au fond de l'Église, pour placer des chaises ou placer les gens, ou pour passer la quête. Maintenant, depuis le Concile, on recourt à lui pour administrer ou aller chercher des fonds pour l'Église. Il dit que l'heure est venue pour que les laïcs s'engagent à donner ou à redonner du fond nouveau et spirituel à notre Église institution. Alors venez-y donc, c'est le cas de le dire, à fond et au fond. Passons au quatrième et dernier groupe, qui n'est pas le moindre, celui de nos seigneurs les évêques. Ici encore, je tiens à le rappeler, il ne faut pas généraliser ni condamner. Il y a dans le milieu épiscopal également énormément de générosité, d'idéal, de dévouement et de sérieux. Et beaucoup plus que plusieurs semblent le croire ou l'imaginer. J'en ai été, d'ailleurs, pendant 25 ans, le témoin quotidien, privilégié et souvent édifié. Ceci dit, toute chose étant bien mesurée, sous-pesée et comparée, rejoignant en cela l'opinion majoritaire actuelle des fidèles, répartis dans les trois autres groupes dont je viens de parler, prêtres, religieux, religieuses et laïcs, ainsi que nos frères et sœurs du secteur qui nous regarde et se tient sur ses gardes, cet autre 65 à 70% important de notre Église, je n'hésite pas à affirmer, premièrement, que nos seigneurs, sauf à quelques exceptions près, ne donne pas ou ne donne vraiment plus le vrai leadership spirituel chrétien dont le peuple de Dieu en Église a un urgent besoin et auquel il aurait droit. L'ensemble des fidèles, aussi bien pratiquants que non pratiquants, ont l'impression, en effet, fondée sur diverses expériences de leur vie courante, de jadis ou de maintenant, que notre Église, malgré d'heureuses exceptions, je le rappelle encore en passant, est plus administrée qu'animée, plus intellectualisée que spiritualisée, plus stationnaire que missionnaire, plus excessivement prudente que réellement percutante. Quand je parle de cette première lacune, qui est assez généralement déplorée, je précise qu'elle porte sur le leadership dit spirituel, spirituel chrétien, non pas sur leur leadership spirituel social, culturel, politique ou économique qui existe déjà, mais sur le leadership, le manque de leadership spirituel, c'est-à-dire celui qui concerne d'abord et surtout le bien des âmes, en tant que tel, et la croissance progressive de leur vie spirituelle chrétienne, intérieure et extérieure. J'aurai l'occasion plus tard, au cours de ces interpellations, ainsi que dans des enseignements d'accompagnement, de revenir sur le concept même, et d'y revenir abondamment, sur le concept, l'importance, l'urgence et la pratique du vrai de vrai leadership spirituel chrétien. Comme conséquence du manque de vrai leadership spirituel chrétien depuis trop longtemps, en notre Église, au Québec et ailleurs, bien des fidèles sont en train de perdre confiance en nos chefs spirituels. Comme cela se produit, on le sait, dans la société, envers nos chefs politiques, syndicaux, professionnels et culturels. Dans le monde, les gens bien qualifiés hésitent souvent de plus en plus à s'engager dans la politique, le monde syndical, les prises de position publiques. C'est la même chose qui s'annonce en notre Église. Les gens s'éclipsent, se laissent tourmenter avant de s'engager en Église. Il est vrai que plusieurs, même beaucoup, se sont laissés séduire durant un certain temps, durant les années 1965 à 70, par tout le nouveau vocabulaire post-conciliaire de certains, au sujet de la nouvelle Église issue de Vatican II, et par tout ce tam-tam qui a suivi le Concile et ses promesses d'avenir, et tous ces jeux de miroir, de ce qu'on nous a fait miroiter en fait de nouveau et de renouveau possible et probable en Église. Certes, il y a eu d'énormes changements de lois, de règlements, de priorités, de cadres, de structures, de pastorales en Église. Il y a eu tout un déluge de bonnes intentions et d'activités nouvelles. Mais, grosso modo, l'esprit profond en Église, l'âme même de notre communauté ecclésiale, n'est pas changé pour la peine, n'est pas renouvelé à fond par l'action transformante du Seigneur, faute, en grande part, à ce manque évident de leadership authentiquement spirituel chrétien de la part d'une majorité significative des successeurs des apôtres, les évêques en poste, depuis nos derniers 50 ans. La deuxième lacune que le peuple place en tête de liste en ce qui concerne les évêques réside dans le constat d'un certain inconfort au bas mot, voire même d'une grande hésitation chez nos chefs spirituels actuels, face à tout ce qui pointe de plus en plus en fait de nouveaux renouveaux spirituels continus en Église de notre temps, sous la mouvance de l'Esprit du Seigneur, notamment dans les domaines d'ordre mystique, charismatique, prophétique et véritablement communautaire d'essence chrétienne. Nous savons tous fort bien qu'à la demande même de Jésus, l'Esprit Saint a été envoyé à son Église. Et comme le précise bien Vatican II dans son document sur l'Église, non seulement à la hiérarchie, mais également aux fidèles. Comme on le retrouve dans Saint Jean, notamment au chapitre 16, versets 11 à 13, Jésus évoque d'ailleurs clairement cette œuvre de l'Esprit quand il dit « Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef. Il vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. 14, 26. Il vous communiquera tout ce qui doit venir. 16, 13. Et Jésus nous avait bel et bien dit qu'il aurait eu encore bien des choses à dire à son Église, mais que celle-ci, apôtre et disciple d'alors, n'était pas à même de les supporter. Il fallait donc s'attendre, et nullement s'en surprendre, qu'à l'intérieur de la grande révélation déjà faite en gros au monde par Jésus, l'Esprit-Saint revienne à la charge parmi nous, en nous le détaillant et en nous livrant progressivement au nom du Père et de son Fils, ce dont l'Église, chef et membre, aurait grand besoin actuellement. Bien entendu, en tout cela, je le précise et j'insiste, les évêques ont non seulement le droit, mais bel et bien le devoir, comme Vatican II l'exige, d'agir avec prudence et discernement. Personne n'en doute. Mais ce qui devient de plus en plus évident, déplorable et regrettable aux yeux d'une multitude de fidèles, vraiment renouvelés de cœur et d'esprit, dans et par le Seigneur, c'est que sous cette prudence pastorale, des évêques, des leaders en Église, se décèle manifestement une grande insécurité, une difficulté croissante, voire même chez certains, une réelle inaptitude à discerner et à décider vite et bien en toutes ces matières. D'où délai, indécision et imprécision sans nombre chez plusieurs, et frustration et confusion chez bien des fidèles. Derrière cette soi-disante prudence pourtant bien intentionnée et sincère, beaucoup y retrouvent même une certaine pusillanimité, c'est-à-dire manque de courage, voire même une peur a priori, face à tout ce merveilleux, à cet inédit dans les spontanéités sans cesse nouvelles et hors série de l'Esprit-Saint, qui souffle, on le sait bien, où il veut, quand il veut, comme il veut et tant qu'il veut. Et croyez-moi, à l'heure de cette relance spirituelle exceptionnelle et prochaine de l'Église, que nous prophétisons sans la moindre hésitation, les livraisons à domicile en direct du Seigneur par son Esprit augmentent et augmenteront considérablement dans le cœur des fidèles. Le peuple de Dieu, pour peu qu'on se place vraiment à l'écoute des âmes au jour le jour, se sent donc et se dit donc présentement victime, déçu, même pénalisé et parfois scandalisé par cette apparente inhabilité perceptible et perçue chez nos pasteurs et bergers. Plusieurs y décèlent rapidement et nous le confient fréquemment. Un manque probable chez eux, soit d'expérience personnel, soit de connaissances en tous ces domaines d'avant-garde spirituelle. Très rares, en effet, semblent être les évêques, et je pourrais ajouter les prêtres, qui donnent des signes rassurants à l'heure actuelle de pouvoir voir clair, promptement, avec aplomb, au nom du Seigneur, en tous ces domaines de la vie spirituelle, mystique, charismatique, prophétique, communautaire vrai chrétien. Et c'est infiniment regrettable. Rares sont-ils ceux qui, non seulement ont l'air disponible et aptes à vraiment comprendre et bien discerner tout cela, Cristallin ajouterait « du vivant des gens », mais également qui semblent portés à se réjouir de tout cela, à acclamer tout ce renouveau spirituel extraordinaire, à confirmer et encourager vivement leurs ouailles, à plonger encore davantage, avec la foi et l'abandon, dans cette écoute du Seigneur. Bref, avoir en tous ces appels et missions nouvelles un signe clair et net du printemps ecclésial tout proche. Poussons un grand soupir. Nous venons de terminer, mes bien chers frères, la révision malheureusement rapide des quatre groupes. Votre suspense, pour prendre un anglicisme, est terminé, ou peut-être votre supplice. Ces lacunes ou griefs, deux pour chacun des quatre groupes, étant précisés et énoncés, croyez-moi bien, j'insiste encore une fois, je ne veux lancer aucune pierre à aucun individu en particulier, ni même à aucun groupe dans son ensemble. Je comprends aisément pourquoi et comment on en est arrivé là tous ensemble. Nos pentes sont pavées des meilleures intentions au monde. Mais nous voilà, de plus en plus vers le bas de la côte. Veux pas, et bien malgré nous. Ne cherchons pas les coupables, mais les solutions. Et tâchons de nous ressaisir et remonter la côte. Je ne perdrai pas votre temps à énumérer toutes les circonstances qui ont joué et jouent encore contre nous. Mais si cela peut en rassurer quelques-uns, je vous confesserai publiquement que si personnellement, j'avais tout simplement continué ma route de vie à la course il y a 15 ans, dans le style actuel de vie et de fonctionnement qui prévaut encore en Église, j'aurais sûrement fait comme la majorité des autres prêtres, évêques, confrères et collègues. Je me serais dit et redit, on l'a l'affaire. Tenons bien, il faut l'améliorer, on va finir par y arriver. La chance inouïe que j'ai eue de pouvoir me retraiter du style actuel, il y a 15 ans, pour découvrir, approfondir et surtout expérimenter à fond la vie et le style nouveau d'une Église tout à fait redevenue œuvre du Seigneur, où il est, lui, véritablement et constamment maître à bord, et nous, ces instruments dociles, disponibles, humbles, simples et remplis de son amour et de sa miséricorde, cette chance inouïe m'a donné un temps de calme, de recul et d'écoute qui m'a sauvé de l'impasse, Dieu merci. Et c'est précisément cette chance, cette joie et cette espérance que je veux et viens partager avec vous au cours de ces quatre interpellations, en toute simplicité et cordiale fraternité, sans prétention, sans vouloir faire de leçon à qui que ce soit. Je viens partager avec tous ceux et celles qui, chez nous comme ailleurs, en Église, ayant atteint le point et la minute de vérité, sont devenus assez matures, réalistes, simples, libres, sérieux, expérimenté et chrétien pour admettre et s'apercevoir que notre Église est à bien des égards en chute libre et qu'il est grand temps qu'on songe à un changement en profondeur. Ce changement que seul le Seigneur a la clairvoyance et la puissance suffisante de nous suggérer et de réaliser à travers nous avec succès si seulement nous avons l'humilité et la simplicité dans la foi et l'abandon de lui dire oui. Passons, si vous le voulez bien, maintenant à la troisième partie. Celle-ci, comme vous le savez, nous présente la seule véritable solution qui s'impose, c'est-à-dire un nouveau style de pensée, de vie et de comportement en Église. Mais si vous me le permettez, avant de parler de ce nouveau style, j'aimerais, en guise de préambule, parler des diverses réactions qu'on peut avoir face à ce phénomène de déclin. Face au déclin actuel en Église, on trouve tout un éventail de réactions possibles, et en voici les plus courantes. Il y a d'abord, ici comme ailleurs, c'est-à-dire, je veux dire, dans l'Église comme dans le reste du monde, ceux et celles qui ne voient pas. Ne voient pas ce déclin, ça leur échappe complètement. On pourrait même adjoindre à ce groupe ceux et celles qui aimeraient peut-être voir et entendre, mais qui, malgré leurs efforts, ne peuvent pas voir ni entendre. Ils voudront voir et ne verront pas, ils voudront entendre et n'entendront pas, nous a dit le Seigneur. Il y a ensuite ceux et celles qui ne veulent pas voir. Par principe ou par insécurité, ils jugent non seulement inutile, mais même nuisible, trop pénible, voire même risqué de s'arrêter à examiner ce qui ne va pas en Église. Et assez facilement, ils se donnent de bonnes raisons et même des motifs, soi-disant spirituels ou évangéliques, pour justifier leur abstention ou leur fuite. Il y a enfin ceux et celles qui voient les lacunes et le déclin et entendent réagir. Et là, chacun s'y attaque à sa manière. Et habituellement, on trouve cinq réactions courantes. Les deux premières sont répréhensibles et bien regrettables et ne mènent nulle part. Les uns se révoltent et ça donne un véritable mitraillage en Église par leurs paroles, leurs écrits, leurs menaces, leurs dossiers dits secrets. S'attaquent violemment à tous ceux et celles qui, en Église, ne partagent pas leur vue ou sont en autorité. Les autres quittent l'Église et s'en vont établir leur tente ailleurs, croyant, et c'est bien en vain, l'expérience le confirme, trouver en une autre Église ou en une simili-Église qu'ils fondent ou intègrent ce qu'ils n'ont pu trouver en notre Église. Cette réaction, si explicable qu'elle soit, car plusieurs sont souvent blessés ou rejetés en Église, s'avère toujours, en fin de compte, lâche et déplorable. Les trois réactions suivantes sont les plus courantes parmi les membres, les bergers et les pasteurs en Église. Il y a ceux qui voient, mais trouvent 36 bonnes raisons, et celles-ci viennent à profusion, étant donné les circonstances de leur vie souvent à la course, pour ajourner, temporiser, bref, ne pas s'y arrêter pour la peine. Attendons voir, peut-être que le temps finira par arranger les choses, ne précipitons rien. Et ils se laissent enivrer, drogués même par leur hyperactivité, leur idéal de vie, et préfèrent s'évader encore dans tout le bien qui se fait par eux ou d'autres, sans vouloir s'arrêter à voir si cela pourrait ou devrait être meilleur et plus complet. Il y a ensuite, parmi ceux qui voient, nos ecclésiastiques et nos laïcs, qui aiment, que dis-je, qui sont anxieux de se lancer dans les analyses et les explications possibles et probables de tout ce qui ne va pas. Pour eux, le succès et la victoire est là. Dès qu'on peut expliquer ce qui ne va pas ou ne va plus, c'est ça qui compte. Le tout cesse alors d'inquiéter, on a trouvé l'explication. L'effet ayant sa cause, on se sent justifié et d'autant moins responsable ou obligé d'y remédier. Et comme on le sait, ces recherches, analyses, hypothèses prolifèrent comme des champignons, le temps passe et le déclin continue et s'aggrave. Cristallin dit souvent, quand ça va en Église, ça dépend de nous, et quand ça ne va pas, ça dépend de la crise occidentale. Enfin, il y a ceux et celles qui veulent des solutions. Jusque-là, l'intention est bonne. Mais là où ça se détériore, c'est quand ils se croient aptes et mandatés pour trouver eux-mêmes, à tout coup, les solutions, ne comptant presque exclusivement sur leurs connaissances et expériences personnelles, ou même sur celles de leurs collaborateurs en titre ou en fonction. On va en sortir, on va s'en sortir. Eh bien, mes chers amis, pour avoir travaillé très activement en Église-institution, au niveau hiérarchique, diocésain, national et international, je puis vous assurer que ces trois derniers types de réactions sont généralisés parmi ceux et celles qui voient le déclin. À savoir, soit remettre au lendemain, soit analyser et expliquer surtout, soit tenter de solutionner le tout par ses propres forces. D'ailleurs, comme tous mes collègues, j'ai expérimenté alternativement ces trois manières de réagir et avec eux et comme eux, tourné en rond pendant 25 ans. Mais c'est parce qu'aucune d'elles n'est vraiment satisfaisante qu'après 25 ans d'impasse évidente et continue, j'ai répondu à bout de recours à la grâce du Seigneur d'un grand plongeon dans la foi, jouant le tout pour le tout, et de lui poser directement à lui la question, question dont je vais vous parler davantage dans un instant. Au lendemain, soit analyser et expliquer surtout, soit tenter de solutionner le tout par ses propres forces. D'ailleurs, comme tous mes collègues, j'ai expérimenté alternativement ces trois manières de réagir et avec eux et comme eux, tourné en rond pendant 25 ans. Mais c'est parce qu'aucune d'elles n'est vraiment satisfaisante qu'après 25 ans d'impasse évidente et continue, j'ai répondu à bout de recours à la grâce du Seigneur d'un grand plongeon.